Celles et ceux que vous allez entendre s'exprimaient lors de la récente commission parlementaire québécoise sur les pesticides. Maxime Laplante, président de l'Union paysanne.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie économie. Je suis un pragmatique. Je ne vois pas pourquoi l'environnement et l'économie seraient deux dossiers opposés. Ils vont ensemble. Et quand on nous dit que le bio est plus cher, il y a des raisons à ça. La première, en tant que producteur bio, sur ma ferme, je dois payer une certification bio. Pourquoi? Parce que d'autres utilisent des pesticides et ils ne vont pas payer de certification. Donc, la certification est à mes frais. Deuxièmement, on parlait des bandes riveraines. J'entendais les interventions de M. Auvebeck là-dessus. On perd 1 % des surfaces à cause des bandes riveraines. Moi, sur ma ferme, je dois retrancher 8 mètres, pas un mètre, 8 mètres de chaque côté de ma ferme comme bande tampon pour éviter la contamination des voisins. Ma ferme a à peu près 200 mètres de large. Bien, 8 mètres, ça fait 16 mètres sur 200 mètres, ça donne 8 % de ma ferme. 8 % de ma ferme ne peut pas être utilisée à cause de la contamination éventuelle des voisins. J'ai quoi comme compensation là-dessus? Autre aspect, juste, je veux partager de la machinerie moissonneuse-batteuse. Si elle a été utilisée pour des céréales qui contenaient des pesticides, donc moi, je dois décontaminer à mes frais. Si je veux partager un semoir, même chose. Donc, ça m'oblige à acquérir de la machinerie pour être certain qu'elle est décontaminée pour ne pas perdre ma certification coût supplémentaire ou décontamination. L'accès aux semences. Nous avons un besoin criant de semences adaptées à des conditions sans pesticides et sans engrais de synthèse. Et ça, tous les semenciers bio, tous les fermiers qui font dans le bio, qui essaient de le faire sans pesticides, sont unanimes là-dessus.
On ne consent pas tous les efforts nécessaires au développement de la production biologique. Marcel Groslot, président de l'Union des producteurs agricoles.
Beaucoup d'intervenants ont fait référence aux pratiques alternatives aux pesticides. Elles doivent être encouragées au maximum. Ces méthodes sont souvent plus risquées, plus coûteuses que les pesticides, sans être davantage rémunérées par les marchés. Il faut aussi appuyer davantage le secteur biologique. L'UPA s'est investi beaucoup dans le développement de cette filière avec la création dès 1989 d'une toute première fédération d'agriculture biologique. Nous avons élargi l'approche en 2015 en mettant sur pied la table de développement de la production biologique. La table que je préside réunit plusieurs groupes de producteurs et d'intervenants, incluant des représentants des gouvernements québécois et canadiens, centres de recherche et autres, maisons d'enseignement, pour faire progresser collectivement la production biologique et répondre à la demande croissante pour ces produits. Aujourd'hui, le Québec est le chef de file au Canada en production biologique. En 2018, on comptait 2083 fermes certifiées au Québec. C'est une augmentation de 29 % par rapport à 2017. Il faut continuer sur cette lancée. Mais les gouvernements doivent s'investir davantage. À l'heure actuelle, l'aide fédérale et provinciale au secteur biologique représente 1985 par ferme biologique québécoise, alors qu'elle est de 7852 canadiens par ferme biologique aux États-Unis. C'est presque 4 fois plus. Les Américains ne sont pas les seuls à investir plus que le Canada et le Québec. En dollars canadiens, l'investissement dans le bio représente 55 sous par habitant au Québec. Il est de 4,30 $ en France, 6,61 $ au Danemark et de 10,65 $ en Allemagne. On a donc beaucoup de chemin à faire. Les budgets consacrés à l'agro-environnement sont eux aussi beaucoup trop modestes. Les budgets fédéral et provincial représentent 1982 $ par entreprise agricole au Québec, alors qu'ils sont de 3880 $ canadiens aux États-Unis.
Pourtant, les mentalités évoluent. Des groupes importants, par exemple la Coop fédérée, s'ouvrent de plus en plus au biologique. Sébastien Léveillé, président de Solio Agriculture, filiale de la fédérée.
Le désherbage mécanique, l'application de bioproduits, toutes les mécaniques d'agriculture de précision, la régie de culture, les plantes de couverture, maintenant, là, ça fait partie intégrante de ce qu'on fait comme service auprès des agriculteurs. Donc, nous, ce qu'on va faire et ce qu'on va continuer de faire, c'est de s'assurer que la prospérité des familles agricoles est bonne et qu'elle réponde aux besoins du marché. C'est-à-dire que s'il y a une demande de plus en plus importante pour l'agriculture biologique, soyez assurés d'une chose, on va les accompagner de plus en plus vers l'agriculture biologique. C'est clair.
Solio Agriculture a récemment changé la vocation de sa ferme de recherche sur les productions végétales de Saint-Hyacinthe, qui est désormais vouée au développement de pratiques et de produits alternatifs pour lutter contre les ennemis des cultures. Mais il y a des sceptiques. Solio fait de la recherche privée. Pour l'agronome-chercheur Louis Robert, de la recherche privée sert le privé.
Moi, mon principe est très simple, c'est que la recherche privée sert les intérêts privés. Donc, quand ils investissent 1 $, il faut que ce dollar-là rapporte. L'intérêt public n'est pas dans leurs priorités. Je n'ai absolument, comme je l'ai dit, aucun problème à ce qu'il y a de la recherche du secteur privé, mais c'est le mélange des deux. Surtout, et dans le cas qui nous concerne, un des cas qui nous a concernés, c'est le sérum, où c'était administré par le privé alors que c'était financé publiquement, là, avec des objectifs publics, d'intérêt public, disons. Donc, c'est, en le séparant les deux, il y a beaucoup moins de confusion.
Il faut donc de plus en plus de travaux de recherche publique, comme le fait par exemple l'INAB, l'Institut national d'agriculture biologique du Cégep de Victoriaville. Normand Pognier-Viera est le directeur général de l'INAB.
Poursuivre le développement et l'adaptation d'incitatifs gouvernementaux au développement de solutions de rechange à l'utilisation des pesticides. Ces incitatifs peuvent être conçus pour soutenir directement les producteurs, mais aussi les organisations qui prennent en charge les processus d'innovation, de transfert et de diffusion au bénéfice des producteurs et des collectivités qui tirent profit de ces innovations. La forte croissance de la demande pour des produits biologiques et le fort intérêt pour le biologique chez les producteurs, actuels et futurs, sont symptomatiques d'un mouvement de société appuyé à la fois par des inquiétudes, mais aussi par un désir de faire autrement. Toutes les conditions sont réunies pour réussir une transition. L'INAB, dans son entier, par ses centres de recherche et par ses activités d'enseignement, continuera d'être proactif auprès du gouvernement des conseillers et du secteur agricole québécois pour améliorer la performance et la durabilité des entreprises agricoles. Davantage de ressources vont permettre à l'INAB d'appuyer les changements requis avec plus de vigueur et de rapidité et de demeurer un leader.
Il faut de la recherche et du transfert de ces résultats vers les fermes. Il faut aussi de la promotion de l'agriculture biologique. Ryan Vaughns, directeur des communications et de la mobilisation chez Équiterre.
Équiterre, comme vous le savez, travaille depuis plus de 25 ans à promouvoir l'agriculture biologique à travers la mise en place du réseau des fermiers de famille. Aujourd'hui, ce sont plus de 130 fermes qui sont dans ce réseau et qui nourrissent des dizaines de milliers de personnes, de familles, partout à travers la province. Au-delà du type d'agriculture que notre réseau pratique et promeut, c'est le rôle central des femmes et des hommes qui nous nourrissent dans notre société que nous voulons revaloriser, ainsi que l'importance de l'agriculture locale pour notre alimentation, pour notre santé et le dynamisme économique de nos régions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, durant les prochains jours, certains voudront réduire le sujet sur lequel vous vous penchez à un bras de fer opposant environnementalistes, au mieux ignorants, au pire insensibles aux réalités des producteurs, et en face des agriculteurs fermés au changement et dont la survie serait irrémédiablement liée aux intérêts économiques de l'industrie des pesticides. Il n'en est rien, je vous l'assure. Et pour vous le prouver, je vous rappelle que c'est conjointement avec l'Union des producteurs agricoles qu'au mois de mars dernier, nous sommes sortis pour demander la tenue de cette commission.
Et la recherche est urgente car l'environnement, encore beaucoup trop chimique de l'agriculture, continue d'avoir de graves effets sur la santé. Jean Zigbee, médecin et ex-président de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement.
Nos recommandations fermes sont les suivantes. Élargir la liste des pesticides visés par la réduction actuelle en incluant le glyphosate. Il faut aussi assurer que les pesticides reconnus comme toxiques ne seront pas remplacés par des produits au potentiel de toxicité existant, mais non encore démontrés, ce qui était le cas avec l'atrazine et le glyphosate. 2. Interdire dès maintenant des pesticides les plus dangereux comme le chlorpyrifos. Par ailleurs, la révision systématique des pesticides à interdire devrait se faire régulièrement, aux 2 ou 3 ans et pas aux 15 ans. Instaurer un registre obligatoire et public de l'utilisation des pesticides au Québec comme le font d'autres juridictions dans le monde. Ce registre doit obligatoirement compiler non seulement les ingrédients actifs, mais aussi les formulations précises de tous les composants chimiques présents, car leur toxicité est parfois pire que celle des composants dits actifs. 4. Favoriser la transition vers l'utilisation d'une agriculture intégrée, biologique, sans pesticides de synthèse non essentiels, avec un soutien financier aux agriculteurs et agricultrices intéressés. 5. Rendre obligatoire auprès des agronomes par le ministère d'Environnement et lutte contre le changement climatique une approche visant des pratiques de lutte intégrées avec l'utilisation des pesticides de synthèse en dernier recours. Établir une législation obligeant l'indépendance des agronomes face à l'industrie et protégeant les agronomes qui dénoncent les pratiques illégales ou éthiquement non acceptables. 7. effectuer un suivi épidémiologique au long cours des personnes les plus exposées aux pesticides de synthèse. 8. Instaurer des programmes de recherche totalement indépendants de l'industrie et portant sur les risques pour la santé humaine, animale et sur l'environnement associés aux pesticides de synthèse avec un financement adéquat pour plusieurs années. Il faut comprendre que les impacts vont pour plusieurs générations. Et si on n'a pas un financement très long, on ne va jamais atteindre les réponses qu'on veut. Et s'assurer que le MAPAC se réengage dans le transfert des connaissances et les services conseils auprès du milieu agricole. Nous ne pouvons pas ramener votre grossesse, votre fertilité, votre mémoire, le potentiel intellectuel perdu de votre fils, votre capacité respiratoire ou votre être cher qui est mort du cancer. Mais aujourd'hui, nous pouvons protéger les prochains en adaptant les lois et des règlements pour limiter considérablement les ventes et l'utilisation des pesticides synthétiques au Québec.
Et à ceux qui prédisent le chaos si l'on bouleverse trop le monde agroalimentaire, l'universitaire et journaliste Denise Proulx souligne que les grandes entreprises peuvent finalement être très flexibles.
Est-ce que les multinationales vont se laisser mettre à terre? Les multinationales vont se transformer. Elles sont en train de se transformer en offrant aux consommateurs des biocides, des biopesticides, de plus en plus. Elles se transforment en offrant une viande synthétique, non à base de viande de chair animale. Les multinationales vont suivre les tendances sociales qui s'établissent. On le voit actuellement. Qui est-ce qui est derrière tous les grands changements au niveau de l'offre qui est faite pour tous les gens qui veulent manger végétalien? Bien, ça vient par la transformation de ces grandes multinationales.
Pour être convaincu de donner priorité aux aliments d'ici et biologiques de préférence, peut-être faudrait-il, comme le professeur et chercheur Jacques Brodeur de l'Institut de recherche en biologie végétale, aller étudier la production à l'étranger, par exemple au Mexique.
Bien, chose certaine, il faut consommer local le plus possible. Oui. Tout à l'heure, on a mentionné les produits du Mexique. Moi aussi, je suis allé au Mexique. Moi aussi, j'ai vu ce qu'il y avait sur les marchés. J'ai fait des travaux au Mexique également et je ne mange plus de produits mexicains. Je préfère, et de loin, à cause des contaminations pesticides, des résidus qu'on trouve sur les produits québécois.
Ici Lionel Levac. Encore pour le moment, une grande partie de la croissance du marché des aliments biologiques se fait avec des produits importés. À défaut de soutenir davantage la production et la transformation biologique ici, on risque d'accroître cette dépendance. Au revoir.